Laval, Copenhague, Kiruna, Stockholm.
Abham guzre, dunya guzri.
Hyderabad, Istanbul, Mumbai, Sofia, Téhéran, Budapest.
Et sans cesse, le voyage recommence pour partir vers de nouveaux horizons.
Vienne, Lausanne.
Fred.
Julie. Julie.
Fred.
Fred et Julie.
Un week-end, en Eurasie.
Vous écoutez Radio Suisse Romande La Première et aujourd'hui débute un long voyage eurasiatique. C'est la première étape, elle va vous paraître peut-être un peu froide, Copenhague, mais rassurez-vous, il y en a encore 14 autres, plus folles, plus drôles, plus chaudes, plus froides, on verra bien.
C'est un été que nous allons passer ensemble, 8 semaines, 8 samedis, 8 dimanches, 8 week-ends eurasiatiques, de 16h à 17h, on se donne rendez-vous et on se promène ensemble. Nous sommes encore dans le train, un nouveau train. C'est le bruit de la plume de Julie qui court sur son petit carnet. C'est samedi 6 mars. Où nous quittons la Suisse. Nous avons quitté la gare de Bâle, Bâle, Mulhouse, Baden, Francfort, Göttingen, Hambourg, Copenhague.
Fridtjof, Toxvi, Martin Lind, Gustav, L. Dub.
You? My name. YEW, you.
Ah, yeah.
Thomas.
Donc, je m'appelle Edouard Delange, j'ai 30 ans.
Je suis Indoubala Ashok.
Ok, donc je m'appelle Laurence Dupré, je vais avoir 25 ans dans une semaine.
Jean-Pierre Pagliano, 56 ans. Directeur de l'Alliance française de Idéra.
Je m'appelle Sharon Hayashi.
Je m'appelle Fabienne Haber, j'ai 25 ans.
Paul Pagliano, femme de directeur de l'Alliance.
Je m'appelle Magali.
My name is Torbjörn Nilsson and I have no girlfriend, no wife, no kids, but I have 13 dogs.
Alors, mon nom entier, c'est Valérie Pitot-Jacquet.
Mon nom n'a pas d'importance. Mon nom, c'est Georges Baumgartner.
My name is Milica. I'm 19 years old. I escaped from NATO bombs.
Michel, j'ai 27 ans.
I love to
paint.
My name is Jana. I'm a Norwegian person living in Copenhagen.
Moi, je m'appelle Camille Boudot.
Okay, my name is Venka.
J'ai 12 ans.
My age is very disputable. My dad doesn't remember at all when I was born.
We have to talk a little about Frédéric and Julie. They are from National Radio
Toutes ces voix qu'on a entendues, c'est l'extrait de toutes les personnes qu'on va rencontrer. Des voix en japonais, des voix en anglais, des voix en français, des voix dans toutes les langues de ces pays que nous allons traverser. Et puis, cette musique, derrière nous, c'est l'atmosphère d'une mosquée au centre de l'Inde, à Hyderabad. Mais ça, c'est dans quelques semaines. Tout d'abord, le voyage. Prenons-le par son commencement.
Et oui, parce que ce voyage, eh ben, il est long. Il faut lier plusieurs pays les uns aux autres. Il y a d'abord le Danemark, la Suède, Singapour, Japon, Inde, Iran, Turquie, Bulgarie, Hongrie. C'est un voyage qui va de l'ouest à l'est, du grand nord à un petit sud. Et pourquoi ce choix, allez-vous dire ? C'est vrai, on aurait pu aller au Mexique, on aurait pu aller à Cuba, on aurait pu aller dans d'autres contrées plus chaudes, plus connues aussi peut-être. Eh ben non, on a décidé d'aller dans ce continent qui n'existe pas, l'Eurasie, parce que sur cette route, on connaît des gens et que ces gens, on savait qu'ils pourraient nous ouvrir leur carnet d'adresses ou en tout cas, ils pourraient nous faire découvrir des bouts de ville, des endroits, des gens étonnants et c'est ça qu'on a voulu faire avant tout.
Et on espère que ces endroits, ils seront étonnants, surprenants et tout ça, parce que c'est vrai, nous deux, perdu comme ça dans un grand continent, comment est-ce qu'on va découvrir des choses intéressantes ? Ça, c'était la question. Alors, en arrivant chez ces gens, tout d'un coup, on connaissait une personne qui habitait à Téhéran ou une autre qui habitait à Tokyo. Et alors, on est arrivé et le premier jour, on a dit « Donnez-nous toutes vos adresses ». Donc, on a dépiauté, on a piqué tous leurs copains dans leur carnet d'adresses, on leur a téléphoné. On dit « Vous parlez français, on vous interviewe demain ». Et puis, c'était l'occasion comme ça de rencontres instantanées, express, car chaque fois, on n'était que quelques jours dans chaque pays. Et c'était de se dire « Ben voilà, qu'est-ce qu'on fait en 5 jours au Japon ?» Alors voilà, donc on interroge tout ce qui bouge, on enregistre tout ce qui passe par-ci ou par-là, et puis on vous le raconte.
Thank you.
certaine distance.
Hey guys, salut.
Vous reconnaissez ce quai de gare? On est en Allemagne. Il est tard. On est dans un train en bois, avec des petits paysages et des miroirs accrochés en dessous des portes-bagages. Sur le quai, plein de gens passent. Un autre train est arrivé. Il y a un chien et un jeune couple habillé en noir qui lui disent de se taire en espagnol. Il y a des adolescents aussi qui crient et qui rient très fort. Et puis, il y a le train aussi qui commence à bouger. Peut-être que nous allons déjà repartir.
Mais nous n'allons pas repartir seuls. Si sur ce quai, il y avait vous. Et oui, vous, auditeur. À quoi ressemble un auditeur de la première? Comment est-ce qu'on peut le reconnaître d'abord? Ben, c'est simple, c'est vous. Vous vous regardez dans un miroir. Vous êtes les personnes qui ont envie de partir en voyage avec nous. Alors on ouvre la fenêtre, on vous dit montez. On ouvre la porte avant que le train démarre, avant que les roues, avant que les gens commencent à faire des commentaires sur les fenêtres, sur nous qui sommes là et... ce voyage, cette invitation, alors vous montez et on vous réserve deux places là. Il y a juste deux places, peut-être trois si vous avez des amis, en face de nous. Et puis on part, on se laisse bercer comme ça par le son du train. Et on part direction Grand Nord. On a déjà fait 1000 km, on en a encore 1000 à faire jusqu'à tout à l'heure. Et puis encore 2000 de plus jusqu'à demain. Donc on part direction Grand Nord.
Première étape éclair, 24 heures à Copenhague.
Eh bien, ça fait 22 ans que je suis ici au Danemark et bon, je suis venu pour comme touriste au début et ensuite je suis tombé amoureux d'une fille et je suis resté là depuis. Il n'y a pas grand chose à dire, sinon qu'elle était belle, blonde. Et voilà, et, bon, bah, c'était un peu l'amour fou, quoi. Et ça a duré quelques années et ensuite je suis resté, j'ai appris le danois, qui n'est pas chose facile. Et voilà, j'ai commencé à travailler. Au début, j'étais à Berlin. Alors, il y a quand même un petit choc entre Berlin et Copenhague. Berlin, c'est la grande ville, la grande métropole. Et Copenhague, ça me paraissait un peu amateur. Ça me paraissait... Mais dans un sens, il y avait le côté plus relax, moins stressant, les gens à l'époque ex-hippie, c'est assez cool. Et puis il y avait cette fille, bon, j'avais envie de rester. Mais ensuite, il y avait quelque chose qui me manquait un peu, j'avais presque envie de repartir, mais je me suis dit, où veux-tu aller? Bon, regretter, c'est difficile. On ne sait pas si on serait resté, qu'est-ce qu'on aurait fait, alors c'est difficile de regretter comme ça, objectivement. Hein. Enfin. Et parfois, on pense quand même au sud, avec un peu plus de soleil, de chaleur. Hein, c'est ça, hein. Mais il y a aussi une forme de mentalité à laquelle je me suis adapté. Parce que moi, je suis assez introverti, moi-même. Donc, je m'adapte bien à cette ambiance hein, du Nord, des gens du Nord. Hein. Alors que les gens du Sud, parfois, sont plus extravertis, mais superficiels aussi. Si je tombe amoureux d'une chinoise, je pourrais peut-être partir à Pékin.
Nous sommes à
Copenhague, ça y est, il fait pas très froid. Il fait un petit peu mauvais comme ça, on voit déjà des vélos contre les grilles de la gare. Et mais il fait un temps comme ça, juste comme si la neige était pas loin. Et c'est très beau, c'est très bon d'être ici.
Mark Wilfield Lewis, tu es le manager de Deep Fried Toguma. Peux-tu présenter les musiciens?
Well, Fridtjof Taxi.
Il y a Fridtjof Taxi, qui est essentiellement responsable des machines, avec aussi Martin Lin, qui joue également de la guitare. Fridtjof et Martin forment l'équipe de base. Ils bossent sur les sampleurs, gèrent les appareils électroniques. Et parfois, ils demandent à Gustave de venir. Gustave, qui se fait appeler Eldub. Et ils enregistrent ensemble des éléments vocaux. Alors Fridtjof traite le son de la voix le plus possible. Il la malaxe, il la travaille, plus comme un instrument qu'une simple voix. Ce qui donne un effet génial, un équilibre parfait entre le son électronique et le son organique. Est-ce que cette musique est marquée par Copenhague? Elle devrait. On a plusieurs influences, mais c'est dur de dire exactement lesquelles. Copenhague, vous savez, même si c'est la plus grosse ville du Danemark, ça reste une ville provinciale. Aussi, c'est peut-être de là que vient le calme ou le respect de cette musique. Je ne sais pas. Nous vivons dans cette ville et nous sommes influencés, c'est sûr. Le son électronique danois est censé être vraiment rond, chaleureux. Le film commencera par cette musique.
There's one thing I want to ask you. I'm talking about, something like...
You're talking sexually as usual, aren't you? Would it surprise you to know that I can also have orgasms? Cosmic orgasms?
What is a cosmic orgasm?
The only way I can describe it is it's like, is if you could feel volts and volts of electricity going through your body. It's hard to imagine, I know.
You mean like God giving you?
If you like. Except that you become God, you become as one with God, which is what you should do in a sexual act. If it's a true love sexual act. And I become at one with the cosmic consciousness. It is like a gate that opens.
It sounds all a bit grand for a quick band, doesn't it?
Okay, what's the name of this film?
Quel sera le nom de ce film?
The name of the film is No Man's
Le titre du
Land.
Film est No Man's Land.
So it has no Danish title.
All right.
But it would be Ingman's Land in Danish.
What's the name
Et quel est le nom du dernier album de Deep Fried Toguma?
The Hi-Fi Companion. We'll release it here in Scandinavia.
Il sort le 26 avril ici.
And well, Germany and
Et si c'est possible, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis,
we'll
environ à la même date.
Export
Et on va essayer de l'exporter le plus possible autour du monde.
In London, there's one thing I want to ask you. I'm talking about, something like...
You're talking sexually as usual, aren't you?
One track, my favorite.
Je pense que maintenant ce serait Merci Simca.
But it changes all
Mais
the
ça
time.
Change tout le temps.
What is yours?
Et toi? Ma favorite a toujours été Mellow Pitbull.
Mellow Pitbull, a very long.
They are all very good. That's a remarkable album, I think. It's really good.
Something looks like your mind.
Moi, ce que je retiens en fait de Copenhague, j'ai eu l'impression qu'il y avait une espèce de... On parlait de flegme hier. Je crois que c'est ça qui me marque le plus. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est une ville où il se passe pas mal de choses, où il y a une vie alternative forte, mais où les gens sont très calmes, sont très posés, comme s'ils prenaient le temps, comme si c'était la ville aussi peut-être, avec son froid qui leur impose quelque chose. Hier, Marie disait que c'était vraiment deux villes différentes, Copenhague l'été et Copenhague l'hiver. Elle avait l'impression que l'été, les gens se prenaient pour des latins et qu'en hiver, ils étaient obligés de se rappeler qu'ils étaient des nordiques et du coup, ils se rétrécissaient. Elle disait en rigolant qu'il ne fallait pas venir en mai parce que c'était le dégel des gens et que donc le temps qu'ils se dégèlent, il y avait de l'eau partout et puis dans leur tête aussi. Tu me demandais ce qui m'avait marqué dans la rue. C'est une drôle de ville, Copenhague, parce qu'il y a un mix de très grande modernité. Les gens sont habillés assez techno. Et de l'autre côté, il y a toute une récupération de vieilles choses, un amour de la brocante, j'ai l'impression, à Copenhague. Parce que tous les enfants sont trimballés dans des énormes landaus. Et puis il y a tout un look aussi où il y a les jeunes femmes, elles seront avec des vieux manteaux un peu rétro, des chapeaux, des chaussures. Il y a vraiment une oscillation techno-rétro qui est assez surprenante.
Mon nom est Yanné et je suis une Norvégienne qui vit à Copenhague.
Yeah, who am I?
Qui je suis ? C'est pas une question facile, n'est-ce pas ? Je suis une personne qui pense, qui aime rencontrer des gens. J'ai quitté la Norvège parce que je voulais changer. J'habitais Oslo et je voulais vivre dans une plus petite ville. Je voulais venir ici pour peindre.
And express myself through painting. That's why I'm here.
C'est pourquoi je suis là.
And being here.
Être là.
I love the Danish.
J'adore les Danois.
Norwegians are more.
Les Norvégiens sont plus carrés. Ils aiment avoir les choses propres en ordre.
They want to have things in forms and stuff. And the people I know here.
Et puis les gens que je connais ici me ressemblent plus. Ils aiment penser aussi. Chercher quelque chose d'impossible.
Impossible things in a way. And yeah. I really like the light in Copenhague.
Et puis il y a la lumière, j'aime vraiment la lumière à Copenhague.
When it's good weather and when it's bad
weather. Qu'il fasse beau temps, qu'il fasse un temps de merde, la lumière est tellement différente selon le temps qu'il fait.
It's so different the light from when it's good and bad weather. They call me the
day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know.
On the second day I brought her a flower. She was more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free.
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. I'm not
to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth.
They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me it, I do not know. For my name was Eliza.
Vous écoutez Radio Suisse Romande la Première, Fred et Julie, pour une première étape dans ce week-end eurasiatique. On a quitté les ambiances et les atmosphères un peu étranges de la musique électronique Deep Fried Toguma, ce groupe que nous avons rencontré, que nous vous avons fait écouter tout à l'heure, pour s'adresser tout d'un coup maintenant à un autre cadre, pour se retourner du côté de la littérature, du côté de l'écrit. Et nous sommes là, assis autour d'une table, nous sommes invités chez des amis. Il y a des spaghettis, il y a du vin blanc, il y a de la bière, du vin rouge. Nous parlons de choses et d'autres. Et tout d'un coup, en face de nous, il y a Marie. Marie, qui est éditrice, qui travaille dans l'écrit, dans les littératures, qui nous parle de Copenhague aujourd'hui.
Tu travailles dans une maison d'édition, comment elle s'appelle ?
Ça s'appelle Bogens Forlag, l'édition de Bogen. Bogen, ça veut dire château, en fait, forteresse.
Quand aujourd'hui on est un jeune écrivain danois, est-ce qu'on va passer par exemple par des petites maisons d'édition ? Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes dans la maison d'édition où t'es ?
Oui, on reçoit beaucoup de manuscrits. Il y a beaucoup de jeunes, c'est surtout les jeunes qui essayent d'avoir leurs livres publiés là-bas. Parce que cette maison d'édition où je suis, ils sont d'un profil très, très jeune.
Et justement, en dehors donc, de la maison d'édition, tu disais que tu as la tête en fait, d'une revue de poésie cette fois-ci.
Oui.
Et en fait, cette revue de poésie, comment elle s'appelle ?
Ça s'appelle Uwaste Kiroesque. En anglais, c'est Upper Surgical. C'est le shiroshi. C'est un mot assez métaphorique, puisque c'est la poésie, très souvent, c'est, il s'agit d'une sorte de shiroshi. On enlève certains mots dans le langage, le vocabulaire, on les remplace avec quelque chose d'autre, et c'est ça, la poésie. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir une atmosphère moins intellectuelle vis-à-vis la poésie. On essaie d'avoir une approche assez expérimentale. C'est une sorte d'investigation sur la poésie. Ici, dans les années 80, on a été une poésie au Danemark qui était très, très intellectuelle, très sacralisée. On avait très romantique. Une image du poète seul dans une chambre très froide, qui était très seul et très pauvre, qui devrait sortir ses poèmes malgré le monde. Et pour nous, c'est une chose beaucoup plus sociale. Et on essaie de mettre le poésie dans le monde.
Quelle est l'image en fait du monde de la littérature danoise aujourd'hui ?
Ce que je crois en voir, c'est une sorte de renouvellement de la poésie. On expérimente beaucoup avec les chants. On écrit très court. Là, il y a beaucoup de jeunes qui écrivent très court, qui essayent de mélanger les chants, qui sont un peu entre les proses et les poésies.
Est-ce que tu as un vers ou une poésie que tu sais comme ça par cœur ?
Hvorfor skal det altid regne, når jeg skal cykle? C'est un petit haïku très, très contemporain. Pourquoi est-ce qu'il pleut toujours quand je monte mon bicyclette?
Vi håber, at I har haft en behagelig rejse.
Mardi 8 mars, nous partons de Copenhague. On a vu tout à l'heure comme un port qui s'ouvrait avec un énorme pétrolier, un bateau en tout cas industriel. Et maintenant, c'est la forêt. C'est assez étrange de penser ça. On est dans le train de luxe, le train qui va sur les bateaux. J'avais jamais vu ça.
Qu'est-ce que tu vois dehors ?
Un cimetière. Très étrange, il était toute la une pelouse vert vif. Et en fait, toutes les tombes étaient entourées de petits bosquets rares. Et après, il y avait une allée avec plein de fleurs plantées, mais comme si on était dans un jardin organisé presque à la japonaise, quoi. Stockholm, Kiruna. Une nuit de route dans un train avec des couchettes, un compartiment juste pour nous deux, et la route immense, longue, ballottante, avec de la neige, des sapins, des lumières oranges aux abords des villes, et puis le gris, la transparence de la lumière dans la campagne.
Un voyage très énigmatique. Nous sommes partis vers 5h de Stockholm hier soir. Il est 9h du matin, nous arrivons à Kiruna. Cette traversée s'est faite sans un bruit. Nous arrivions dans chaque gare où l'on retrouvait donc les mêmes lampadaires oranges. Une ou deux personnes, tout en mitouflées, qui montaient ou descendaient dans cette ligne, qui est la ligne qui va le plus au nord du monde. Et puis quelques entrepôts, quelques énormes tas de neige, de la neige partout. Ce qui est impressionnant, c'est comme ce monde est fait pour vivre la moitié de l'année, en tout cas le quart de l'année dans la nuit la plus totale, tout est fait pour être illuminé jour et nuit, pour pouvoir travailler sous les lampadaires, pour pouvoir vivre sous les lampadaires. Ce qui fait que les abords des villes et les villes elles-mêmes sont resplendissantes de lumière et de couleurs des vrais sapins de Noël.
Et pour revenir en fait à cette ligne, il y a ce compartiment wagon-restaurant qui est assez fabuleux, qui n'est pas du tout design moderne. C'est vraiment le vieux compartiment de train où les gens sont chaleureux, il y avait beaucoup d'hommes et qui discutaient comme ça, des grands hommes un peu plus le style bûcheron qu'autre chose, blond, fort. Et puis il y avait cette douceur, cette lumière dans ce compartiment où on pouvait manger des yaourts, puis boire du thé.
Et bien sûr se raconter des histoires, donc s'asseoir dans un petit coin, se laisser bercer par cette atmosphère de coin de feu de bois un peu, et puis regarder le paysage, toujours le même, c'est-à-dire entre deux gares, rien, et dans les gares, de la neige orange. Et puis l'un en face de l'autre, et bien on s'est fait des cadavres exquis, on a essayé de jouer aux cartes, on a essayé de se raconter un peu des petits récits de voyage. Et puis essayer de penser à quelle serait cette arrivée à Kiruna. Cette arrivée à Kiruna, on va être attendu par Ansolov et Annette, de longues connaissances, qui vont nous attendre, où on va rester peut-être 4, 5, 6 jours, suivant l'ambiance, suivant ce que l'on va découvrir. Donc cette arrivée à Kiruna qui reste encore un peu un mystère. À quoi va-t-elle ressembler ? À quoi Kiruna va-t-il ressembler la nuit ou plutôt l'hiver ? Et puis comment on va faire pour supporter le froid ?
Eh bien voilà, nous y sommes à Kiruna. Nous y sommes dans cette ville où on se demandait bien comment on allait y rester, y vivre et supporter le froid. Effectivement, il fait froid. Il y a des mètres de neige partout. Mais avant Kiruna, eh bien, il y avait Copenhague avant. On l'a laissé là-bas aux 2300 km. Et moi, je me demande, qu'est-ce que t'as retenu, Fred, de Copenhague ?
Petite collection des choses insolites.
Petite collection des choses insolites.
Ben moi, beaucoup de choses. C'est vrai que le plus important, le plus intéressant, c'est Dogma. Dogma, cette charte signée par d'abord 5 réalisateurs. Dogma 1, 2, 3, 4, 5. 5 réalisateurs danois, dont Lars von Trier et Thomas Vinberg, qui ont proposé tout d'un coup une nouvelle charte d'un nouveau cinéma. Une sorte de vœu de chasteté où des cinéastes, soudain, s'engagent à faire des films sans effets spéciaux, à faire des films sans musique additionnelle, à faire des films où tout est vrai. Ou c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de faire que ce soit du vrai avec des effets, on n'essaye pas de truquer, on n'essaye pas de mentir, mais ce n'est pas non plus un cinéma vérité, mais tout d'un coup, c'est un cinéma épuré à l'extrême, avec des budgets minimaux, qui vont peut-être révolutionner le cinéma européen.
À Copenhague, il y a une autre chose étonnante, il y a une école pour les écrivains. Et oui, par rapport à dans nos contrées où être écrivain, eh bien, c'est... ça ne s'apprend pas, on est un génie ou on ne l'est pas. Eh bien, à Copenhague, on pense qu'être écrivain, c'est un métier comme un autre et que ça s'apprend. Donc chaque année, il y a 6 étudiants qui viennent apprendre des haïkus, à écrire des haïkus à la japonaise ou alors écrire des petits contes érotiques, enfin toute la gamme que la littérature propose.
Et puis ils font quoi alors après tout ça ? Ça dure longtemps ?
Ah, ça dure 2 ans, il me semble.
Caramba !
Et puis après, ce sont des écrivains, les écrivains danois.
Autre chose, il y a Christiania. Tout le monde a entendu parler du plus grand squat d'Europe, ou quelque chose comme ça. Christiania, c'est maintenant quelque chose de très très touristique. Alors c'est dommage, parce qu'à la base, il y a 25 ans, 26 ans, c'était tout d'un coup des jeunes qui décident de faire un nouvel état dans l'état, ou en tout cas de prendre les anciens arsenaux au centre de la ville, et de tout d'un coup en faire un lieu autonome, avec des musiques, avec des centres de... nourriture, des centres de culture, un lac artificiel, un vrai monde en fait au centre de Copenhague. Le problème maintenant c'est que c'est devenu très très touristique. Alors c'est le seul lieu où on peut consommer plus ou moins légalement tout ce qui est drogue douce et c'est devenu des débarquements de bus de touristes, soit des jeunes qui viennent acheter ce qu'ils ont besoin ou des vieux avec des appareils photo, ce qui est interdit hors de l'allée principale, pour venir photographier tous ces indigènes, ces autochtones, un peu post-baba, 20 ou 30 ans après 68, et qui continuent comme ça de croire à un paradis, sans avoir pourtant l'énergie de changer le monde.
À l'opposé de Christiania, il y a les intérieurs danois. Un jour, on était dans une cuisine chez des amis, et on regardait l'immeuble d'en face, et on s'est dit, c'est bizarre,
Sur toute la surface de cet immeuble, il n'y a pas un seul rideau et toutes les cuisines qui nous faisaient face semblaient se ressembler étrangement. En effet, à chaque fois, un évier entouré de bois, une plante verte et puis une grande table avec des chaises, toujours dans cette couleur bois très suédoise, danoise, enfin du Nord. Et puis on s'est interrogé, on s'est dit finalement on pourrait vivre dans toutes ces cuisines. Elles se ressemblent toutes, comment ça se fait? Est-ce que tous ces gens se ressemblent? Et puis l'ami chez qui on était nous a dit, bah non, en fait il y a un architecte qui lui a finalement poncer les intérieurs danois et tout le monde s'y est mis. Et c'est vrai que c'est assez beau, mais c'est assez étrange parce que on voit toujours chez les voisins. Et puis il y a cette espèce de sobriété et d'uniformisation aussi.
Donc en fait, jamais l'idée de se masquer pour mettre des rideaux, c'est complètement ringard. C'est pas du voyeurisme, mais c'est assez spécial. Mais ce qui en fait, malgré tout, quand on se balade dans les rues, tu te dis c'est très beau pour voir les cuisines, mais aussi les magasins, les petites boutiques, les restaurants. Pour moi, ce qui fait de Copenhague une ville très très agréable, c'est qu'il y a des murs de toutes les couleurs. Et ce mélange de bois et béton qui est très 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 harmonieux.
Et puis dernière chose, il y a à Copenhague la mer qui gèle. Est-ce que vous avez déjà vu ça, une mer gelée? Eh bien oui, quand on se promène l'hiver à Copenhague et qu'il fait très 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 froid, quand on se promène dans le port, eh bien curieusement, la mer est totalement gelée. On pourrait marcher dessus, on pourrait aller même faire du patin à glace. On n'ose pas trop parce qu'à un moment donné, ça doit se transformer en iceberg et puis on coule avec. Mais c'est très impressionnant.
Curieusement, avec le froid qu'il fait, je trouve pas ça très 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 curieux. Hein.
Thank you. Cette émission a été réalisée par Frédéric Chauffa et Julie Gilbert. Derrière les petits boutons et les cadrans de la technique, Patrick Deram, et dans le rôle des oreilles musicales, Carmen Algarada.
Et puis des remerciements pour toutes les personnes qui nous ont reçus à Copenhague, Leonardo Fradelizzo, le groupe Deep Fried Toguma, Camille and Mark, Jeanne Haugen, Marie Winter.
Et la musique ?
La musique, on a entendu tout d'abord Massive Attack, ensuite Globeat, ensuite les deux albums, d'abord Subtic, puis The Hi-Fi Companion de Deep Fried Toguma, ensuite Nick Cave. Et puis un album très très beau, un album lausannois qui s'appelle The Seismic Napkins Adventure ou Tales of Coincidences, c'est L177. Et puis ensuite Marie Bohaine, c'est tout.
Et puis si demain vous preniez une motoneige avec nous pour monter jusqu'en haut des grands plateaux Samet, là où plus aucune maison n'est visible et où le silence est roi. Rendez-vous demain à la même heure pour partir à la découverte du territoire Samet.
Ni lyssna på Radio Suisse, romande la première. Och klockan är 5.
Radio Suisse romande la première, il est 17h.